Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Appel du pape au calme en Ukraine après les affrontements meurtriers entre les manifestants anti-gouvernementaux et la police. Le sacrement de la réconciliation, c'est le thème abordé lors de l'audience générale par le pape François, qui a rappelé que le pardon est un cadeau de l'Esprit-Saint. Réunion ce jeudi des cardinaux, les anciens comme les futurs, autour du pape sur le thème de la famille. Parmi les nouveaux cardinaux, Monseigneur Langlois, premier haïtien à recevoir la barrette. L'écuménisme, ce ne sont pas que des textes, ce sont aussi des gestes, comme l'installation de membres de la communauté du Chemin Neuf dans les murs du palais de Lambeth, le siège de l'église anglicane à Londres. On en parle avec le fondateur du Chemin Neuf, le frère Laurent Fabre. Le désarmement nucléaire, une option valide pour la paix, c'est ce que tente de faire comprendre l'église, notamment en France, où elle vient de publier un livre sur la question. On en reparle à la fin de ce magazine. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. C'est avec préoccupation donc que le pape François suit ce qui se passe depuis plusieurs jours à Kiev en Ukraine. À l'issue de l'audience générale de ce mercredi matin, place Saint-Pierre, le pape a lancé un appel à toutes les parties concernées pour que cessent les violences et pour qu'elles recherchent la concorde et la paix. François a également exprimé sa proximité au peuple ukrainien et a dit prier pour les victimes des violences. Le chef de l'église grecque catholique ukrainienne, l'archevêque Shevchuk, a également réclamé ce mercredi la fin des violences, regrettant que les appels au calme lancés par les églises du pays n'aient pas été entendus. La situation en Ukraine a dégénéré ces dernières heures. La police anti-émeute a pris d'assaut la place centrale de la capitale pour y déloger les manifestants anti-gouvernementaux. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, policiers comme civils. Revenons maintenant sur la catéchèse du pape lors de l'audience générale. Catéchèse consacrée cette semaine au sacrement de la réconciliation, sacrement de guérison. Le pape François a expliqué aux quelques 20 000 fidèles présents qu'il ne fallait pas avoir honte de se confesser. Car si l'homme a reçu la nouvelle vie dans le Christ via les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, il continue à être soumis à la tentation. C'est pour cela que Jésus a voulu que l'Église continue son œuvre de salut, même envers ses propres membres, a notamment déclaré le pape. Les précisions de Cyprien Viette.
L'origine du sacrement de la confession vient directement du mystère de Pâques, quand Jésus apparaît aux apôtres réunis au Cénacle et qu'il leur dit « À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis ». Le pape souligne à travers ces lignes de l'évangile de Jean que le pardon n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est un cadeau, un don de l'Esprit-Saint qui nous remplit d'un bain de miséricorde et de grâce. Il rappelle aussi que nous ne pouvons vraiment être en paix que si nous nous réconcilions avec Jésus, avec le Père et avec les frères. Cette démarche n'est pas facile et chacun peut avoir honte de reconnaître ses péchés. Or, assure le pape, avoir honte est salutaire et nous aide à nous sentir plus humbles. De plus, le prêtre reçoit avec amour et tendresse cette confession. Cette tendresse, Jésus nous la prodigue, comme le Père. Célébrer le sacrement de la réconciliation signifie, explique le pape, être enveloppé dans une étreinte chaleureuse, celle de l'infinie miséricorde du Père. En somme, a-t-il conclu, à chaque fois que l'on se confesse, Dieu nous étreint.
Cyprien Viette. Et avant l'audience, le pape a rencontré 19 détenus des prisons italiennes de Pise et Pianosa à la maison Sainte-Marthe au Vatican. Une rencontre de 45 minutes. Le pape a salué chaque détenu. Il les a bénis un à un. Ces détenus participent à un parcours spirituel qui prévoyait cette possibilité d'un pèlerinage à Rome et de participer à l'audience générale en compagnie des aumôniers des deux prisons. C'est ce mercredi matin, en apprenant leur présence au Vatican, que le pape a décidé de les rencontrer avant l'audience générale, en les accueillant à Sainte-Marthe pour leur adresser à chacun des paroles d'encouragement. C'est l'un des moments forts de cette semaine au Vatican, le consistoire extraordinaire sur la famille. Il s'ouvre ce jeudi. Entre 180 et 185 cardinaux se réuniront dans la salle du synode. Cette réunion s'ouvrira par l'office des tierces et un discours du cardinal doyen Angelo Sodano, suivi par une prise de parole du pape François. Les travaux proprement dits débuteront avec une longue intervention du cardinal Casper, rapporteur du consistoire, qui servira de base aux interventions des cardinaux. La question de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés est l'un des sujets délicats au centre du débat. Auparavant, les 8 cardinaux chargés de conseiller plus spécialement le pape ont poursuivi leurs travaux. Après avoir écouté le rapport de la commission sur le IOR et sur la réforme des institutions financières du Saint-Siège et du Vatican, le G8 a remis des propositions concernant l'organisation et la direction des activités économiques et administratives du Saint-Siège et des propositions concernant l'Institut pour les œuvres de religion, propositions qui sont désormais entre les mains du pape François. Le G8 se réunira maintenant, après la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII, du 28 au 30 avril et du 1er au 4 juillet. Parmi les cardinaux désignés, qui seront officiellement créés samedi matin, Monseigneur Chibli Langlois, premier cardinal de l'histoire d'Haïti, évêque d'Ecaille et président de la conférence épiscopale du pays. La nouvelle a été accueillie avec grande joie par toute la population qui voit un heureux signe pour son île, meurtrie par un terrible tremblement de terre et par une situation économique et sociale très difficile, sans oublier une crise politique qui dure depuis 2011. Autant de thèmes sur lesquels est revenu volontiers le cardinal désigné, Monseigneur Langlois.
Après le tremblement de terre, nous connaissons des difficultés dans le pays parce que ça a provoqué au sein des familles de grands problèmes. Actuellement, il y a des difficultés sur le plan économique. Les familles ne peuvent pas se prendre vraiment en main ou bien assumer leurs responsabilités. Le père ou la mère face aux enfants connaissent des difficultés énormes. Haïti, qui est un pays qui connaît pas mal de besoins sur le plan financier, on peut bien comprendre que beaucoup de gens qui ne travaillent pas, parce qu'on est, nous sommes à 85% de gens qui n'ont pas vraiment un salaire, on peut comprendre la grande difficulté des familles à pouvoir joindre les deux bouts.
Haïti, c'est aussi un pays où les tensions sociales sont fortes et l'opposition entre partis politiques est très exaspérée. L'Église a entrepris une médiation pour tenter d'arriver à un processus de réconciliation nationale. Quels sont les résultats de cette œuvre de l'Église dans la politique du pays?
Nous sommes engagés à mettre ensemble les différents partis politiques, également les institutions comme le Parlement, l'exécutif, pour qu'ils puissent dialoguer et trouver une issue à cette crise. C'est un engagement qui apporte beaucoup de résultats. Ça a apaisé en quelque sorte la grande tension sociale au niveau politique également. Durant tout ce temps de dialogue, au mois de janvier jusqu'ici, au mois de février, on a focalisé en quelque sorte l'attention de toute la société sur ce dialogue. On a voulu aboutir à la signature des accords, mais étant donné que c'est un dialogue inclusif où il y a non seulement les partis politiques, mais également les institutions comme l'exécutif et le Parlement. Donc le temps dont ces institutions ont besoin pour réaliser ce dialogue, du moins c'est tirer quelque chose comme un résultat entre elles, devait être beaucoup plus long. Et c'est pourquoi on n'a pas pu aboutir à la signature des accords. Mais nous restons confiants que l'on va pouvoir signer ces accords parce que tous les acteurs qui se sont engagés dans ce dialogue nourrissent de très grands espoirs pour que ce dialogue puisse aider à résoudre en quelque sorte cette crise. Donc à cause de l'espoir que portent les acteurs, nous espérons nous autres, avec notre accompagnement, aider à la signature et aider également à l'application des accords.
Monseigneur Chibli Langlois, au micro de Stefano Leschinski. Concernant les responsables de la curie, le cardinal Sandri et le cardinal Corr ont été confirmés respectivement à la tête de la Congrégation pour les Églises orientales et du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Les secrétaires des deux dicastères ont également été confirmés. Parmi les membres de la Congrégation pour les Églises orientales, le pape a nommé notamment Monseigneur Sidrac, patriarche d'Alexandrie des Coptes, et Monseigneur Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. L'aide et le soutien aux familles a été au cœur des discussions entre les autorités politiques italiennes et la délégation du Saint-Siège guidée par le secrétaire d'État, Mgr Parolin. Comme tous les ans, à l'occasion de l'anniversaire de la signature des accords du Latran entre l'État italien et le Saint-Siège, une réception a été organisée mardi soir à l'ambassade d'Italie près le Saint-Siège à Rome. Mgr Parolin a pu s'entretenir avec le président de la République italienne, Giorgio Napolitano, et le président du Conseil sortant, Enrico Letta. Interrogé par les journalistes, Mgr Parolin a exprimé le souhait de voir le prochain chef du gouvernement, Matteo Renzi, appliquer son programme. Il a aussi parlé de la famille et de l'importance de la soutenir, ainsi que le travail. Le futur cardinal a également reconnu que le tissu Italie tenait. Il y a en effet beaucoup de familles, de personnes, de jeunes, de personnes âgées qui contribuent de manière fondamentale au développement et à la vie du pays, a-t-il notamment déclaré. Un autre rendez-vous avec le prochain gouvernement devrait toutefois avoir lieu, selon toute logique, pour traiter des questions fiscales et d'autres problèmes spécifiques qui n'ont pas été abordés cette fois-ci. Voilà une initiative concrète en faveur de l'écuménisme, celle menée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, le chef de l'église anglicane. Il a invité la communauté écuménique du Chemin Neuf à venir s'installer chez lui au palais de Lambeth à Londres. Depuis janvier, quatre membres de la communauté partagent donc les prières quotidiennes qui rythment la journée de l'archevêque qui a voulu, par ce geste, travailler à la réalisation de l'unité des chrétiens. Une unité perdue depuis bien longtemps, comme le rappelle le frère Laurent Fabre, le fondateur et le supérieur général de la communauté du Chemin Neuf.
Depuis 1534, il y a la division entre l'église anglicane et l'église catholique. Ça fait 480 ans. C'est une petite chose significative que nous vivons. C'est petit, mais c'est un petit commencement. Et ça réjouit beaucoup de gens. Par exemple, le pape, par exemple, beaucoup d'anglicans que je connais, et en particulier du côté catholique, le nouvel archevêque qui est devenu cardinal. Au fond, c'est un petit événement, mais qui nous donne de l'espérance. Il y a des points communs entre deux hommes aussi différents que Justin Welby et le pape François. Tous les deux, c'était une élection surprise. Tous les deux sont assez populaires, très aimés. Tous les deux ont envie d'aller plus loin au niveau de l'unité. Et comme tous les deux, ce sont des hommes de prière, on peut s'attendre à des surprises, comme avait prévenu déjà au Vatican l'archevêque Justin Welby. C'est très étrange, mais ces hommes si différents ont beaucoup de points communs. D'abord, l'amour des plus pauvres. Deuxièmement, l'amour de la vie communautaire. Si le pape, il souhaite vivre là où il est, non pas dans son grand palais, c'est parce qu'il veut pas être tout seul. De même pour Justin Welby, s'il nous a invités, c'est parce qu'il veut pas vivre tout seul. Et tous les deux sont des hommes de décision. Quand l'archevêque Justin Welby et le pape se sont rencontrés, ce jour-là, nous avons prié et jeûné parce qu'on savait que c'était une rencontre importante.
Est-ce que je peux vous demander aussi un peu l'idée de cette communauté écuménique? C'est très jeune, cette communauté, n'est-ce pas? C'est fondé dans...
Oui, notre communauté a 40 ans. Pour une communauté, c'est très jeune. Donc, depuis 40 ans, nous sommes une majorité de catholiques, mais nous avons toujours accueilli à part entière d'autres membres d'autres églises, avec l'autorisation de leur église. Pour nous, c'est très important l'obéissance à nos églises. Donc, nous avons accueilli depuis 40 ans des membres d'autres églises, par exemple des anglicans, mais aussi des orthodoxes, etc. Donc, c'est pour nous un appel vraiment à travailler, à donner notre vie pour l'unité des chrétiens. Actuellement, nous sommes à peu près 1600 et ceux qui s'engagent définitivement veulent vraiment donner leur vie pour l'unité des chrétiens. Parce que pour nous, comme pour beaucoup d'autres, c'est très important. La division est le grand scandale qui empêche vraiment l'évangélisation.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impatients avec la lenteur du progrès dans le sens de l'unité des chrétiens. Les leaders, enfin les évêques qui sont beaucoup plus peut-être en retard respect aux autres, les gens normaux dans les églises.
Moi, j'ai une comparaison que j'emploie souvent quand je parle à mes frères et sœurs de communauté qui parfois aussi sont impatients. Je leur dis, l'Église, maintenant, c'est pas seulement une petite barque. Par exemple, l'Église catholique, c'est 1,2 milliard. Donc, un gros paquebot, ça met du temps à tourner, ça met du temps à changer. Et au fond, on peut dire quand même que depuis 1910, au début de l'œcuménisme, beaucoup de choses ont changé, et ça, c'est magnifique. Donc, je trouve que je me réjouis du changement de nos églises, institutions. Elles changent très vite. Et ce petit fait aujourd'hui, après 480 ans de séparation, c'est un petit fait significatif, mais important.
Des propos recueillis par Philippa Hitchen de la rédaction anglophone. Et parmi les quatre pensionnaires du palais de Lambeth figurent un couple marié d'anglicans, un luthérien et une sœur consacrée catholique. En France, on parle souvent du nucléaire civil, mais quasiment jamais du nucléaire militaire. L'Église veut aujourd'hui changer la donne et relancer le débat autour du désarmement. Mais comment convaincre les États qui ont la bombe atomique ou qui aspirent à la posséder ou bien d'y renoncer? Comment faire comprendre qu'un désarmement nucléaire est une option crédible pour obtenir la paix? Pour faire connaître leur point de vue et analyse, la Commission Justice et Paix, Pax Christi et la Faculté de sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris publient un livre aux éditions de l'Atelier. Il est intitulé « La paix sans la bombe ». Monseigneur Boivineau, l'évêque d'Annecy et président de Justice et Paix, nous rappelle le point de vue de l'Église sur l'arme nucléaire.
Le pape François, dans son message pour l'appel au 1er janvier, dit « Je fais bien l'appel de mes prédécesseurs en faveur de la non-prolifération des armes et du désarmement de la part de tous ». Et en commençant par le désarmement nucléaire. Une autre prise de position, c'est celle de Mgr Mamberti devant l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui se prononce, au mois de septembre dernier, pour l'élimination totale des armes nucléaires, en disant « la sécurité mondiale ne doit pas reposer sur les armes nucléaires ». Et en 2006, Benoît XVI qualifie de funeste et fallacieuse la perspective d'une sécurité nationale garantie par l'arme nucléaire. Sur l'arme nucléaire en elle-même, la position de l'Église a toujours été la même. Mais c'est sur la question de la dissuasion que, dans le contexte de la guerre froide, elle a adopté une attitude de tolérance, c'est-à-dire au sens, vous savez, d'un pis-aller à l'égard de la dissuasion, qui était considérée comme un moindre mal face à la menace totalitaire soviétique. Et de ce point de vue, nous n'étions pas tout à fait sur la même longueur d'onde que nos frères protestants et orthodoxes qui étaient plus stricts.
Votre intervention parlait de la position des églises. Est-ce qu'aujourd'hui, les églises, les chrétiens, sont tous alignés, d'accord, pour prôner ce désarmement nucléaire?
Entre les responsables de nos églises, je pense qu'il y a, oui, un accord. Mais ensuite, chaque chrétien... Je crois que nous avons encore du chemin à faire et c'est justement l'objet de ce livre, d'inviter au débat et à saisir les enjeux.
Parce que vous trouvez qu'aujourd'hui la question du nucléaire, n'est pas un sujet sur lequel on réfléchit suffisamment, au moins en France?
C'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet dont on ne parle pas. On l'oublie. C'est plutôt ça le problème, si on prend du côté de la population. Mais par contre, du côté des responsables, c'est un sujet où on n'en parle pas, c'est le secret. Vous voyez, c'est deux attitudes tout à fait différentes et sûrement que nous gagnerions aujourd'hui à ouvrir débat.
Pour l'instant, la France est encore dans une position où la politique de la dissuasion nucléaire est importante. Comment est-ce que dans un contexte pareil, on peut prôner le désarmement progressif, dans le dialogue, etc.?
Multilatéral. Il y a aussi des positions plus tranchées pour dire qu'il faudrait un désarmement unilatéral. Peut-être que ce serait un bel exemple, mais ça n'empêcherait pas les autres, certains pays émergents, de se doter de l'arme nucléaire. Donc, ce qui est important, c'est que dans le contexte où nous sommes, la France puisse faire entendre sa voix pour un désarmement progressif. La France, là, a une chance devant elle pour... servir la paix.
Évidemment, en tant qu'Église, il s'agit maintenant de présenter le désarmement comme une option nécessaire et très importante justement pour construire la paix. Mais est-ce que c'est pas difficile? Parce qu'on imagine bien que dans la réelle politique, ça ne paraît pas forcément comme un scénario crédible.
C'est vrai, mais vous savez, déjà, au niveau du désarmement, si on regarde dans l'histoire, si on regarde par rapport à ce qu'il y avait il y a 40 ans, pays comme l'URSS, comme les États-Unis, ont sérieusement diminué leur armement nucléaire. Il y a eu déjà un processus de désarmement. On peut aller plus loin. Et bien sûr, ça peut avoir quelquefois donné le sentiment d'une utopie, mais c'est quelquefois aussi des utopies qui peuvent faire avancer le monde. Et là, pour nous, c'est pas seulement une utopie, mais c'est une conviction. Nous sommes dans une situation où la paix serait le fruit de la peur. Eh bien, Et il faut passer à une autre situation où la paix, eh bien, soit le fruit de la confiance. C'est-à-dire, il faut remplacer la logique de la terreur par l'éthique de la responsabilité, en favorisant un climat de confiance et de dialogue.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.